VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la justice déterminée à sévir après les manifestations d'hier à Bamako qui ont fait un mort, 15 blessés, dont 3 grièvement, plus des véhicules incendiés. Des protestations de soutien au jeune activiste et homme de radio Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbas, qui devait être présenté au juge pour atteinte aux mœurs après avoir été interpellé la veille. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Après les manifestations de soutien aux jeunes activistes, le procureur près la cour d'appel de Bamako sort de sa réserve. Mamadou Lamine Koulibaly.
Les bureaux sont incendiés. Les livres, les codes qui sont achetés pour le travail des magistrats sont incendiés. Il va falloir les remplacer. Rien ne peut justifier cette inconduite. Et rassurez-vous, les auteurs et complices seront recherchés, traduits en justice et la loi s'appliquera dans toute sa rigueur.
Pour ce qui est de l'enquête ouverte, concernant les propos de Mohamed Youssouf Batili d'Iras Batch, elle va se poursuivre.
C'est pour cette raison qu'il a été interpellé et gardé à vue. Quand vous entendez des déclarations et des propos qui sont de nature à démoraliser nos troupes, ceux-là qui sont au nord, qui sont là pour la protection de la société, qui sont là pour la défense de l'État, qui sont là pour la défense de notre pays, il est inadmissible de laisser passer de tels propos.
D'après le procureur, cette affaire n'est pas un délit de presse.
Il est poursuivi pour des délits de droit commun. Il n'est pas poursuivi pour des délits de presse. Nous sommes dans un pays qui consacre et qui respecte les droits de réunion, la liberté d'association, la liberté d'opinion et d'expression seront garantis et respectés. Nous y veillerons, nous protégerons ces droits-là. Maintenant, nous n'accepterons pas que certaines dérives aussi s'installent dans la société.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la justice congolaise a rejeté aujourd'hui la demande de remise en liberté provisoire du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars. Il avait été inculpé hier d'incitation au trouble à l'ordre public. Une nouvelle charge, en plus de celle d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre. En RDC, la tension reste vive à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays, après les violences d'hier qui ont fait 3 morts, dont un policier, au dernier jour du deuil national en mémoire d'une cinquantaine de civils massacrés le week-end dernier dans cette ville par des présumés rebelles musulmans ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un premier incident, un policier et un civil ont été tués lors de heurts violents avec les forces de l'ordre au cours d'une manifestation antigouvernementale. 9 personnes ont été également blessées, dont 6 civils et 3 militaires, a déclaré à la presse le maire de Beni, Edmond Masumbunko. Dans un deuxième incident, une femme soupçonnée d'être une milicienne ADF a été lynchée mercredi par la foule dans un quartier nord de Beni, non loin des lieux du massacre, a annoncé le maire.
Le coordinateur de la coalition congolaise pour la justice traditionnelle en RDC, Raphaël Wakenge, fait état d'une faible volonté politique dans la recherche de solutions à l'escalade des violences à Beni. On l'écoute.
Nous ne sentons pas vraiment l'implication du pouvoir public. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique pour trouver des réponses appropriées à la situation qui prévaut à Beni. Toutes ces reprises des violences, on devrait déjà trouver une lueur d'espoir. Mais c'est le désespoir qui s'installe dans le chef des survivants. Qu'est-ce qu'on fait des recommandations de tous les rapports qui ont déjà été produits et publiés sur la situation de Beni? C'est tout cela qui pose problème. Et on chasse les défenseurs de droits de l'homme, Scott Campbell qui est parti, Jason Stern qui est parti, Ida Sawyer qui est parti. Peut-être on n'a pas besoin de voir de gens qui pourraient être témoins de ce qui est en train de se faire. Et peut-être demain, ça sera la chasse aux défenseurs de droits de l'homme congolais eux-mêmes. Nous voulons vraiment qu'on arrête avec la violence. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas être insensibles par rapport à ce qui s'est fait là-bas.
Raphaël Wakenge, coordinateur de la coalition congolaise pour la justice traditionnelle en RDC. En Centrafrique, le gouvernement accuse la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, d'avoir laissé partir des rebelles qui sont sous le coup de mandat d'arrêt qu'elle avait pourtant intercepté le week-end dernier. Une accusation que dément la mission onusienne, ce qui alimente une polémique. Des détails avec notre correspondant à Bangui, ou plutôt le point avec Eddy Sango.
Selon le premier ministre centrafricain Simplice Mathieu Sarandji, la MINUSCA a laissé partir des membres de l'ex-SELECA, dont 2 chefs de guerre, Abdoulaye Hissène et Arun Gaye. qu'elle avait arrêté le week-end. De son côté, la MINUSCA affirme avoir remis aux autorités centrafricaines 7 des 11 personnes interpellées, tandis que 4 sont soignées à l'hôpital de la MINUSCA à la demande du procureur de la République. Les porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, promet que les 4 restants seront remis aux autorités centrafricaines dès que leur état les permettra, mais ne précise pas leur identité. Plus de 35 hommes lourdement armés étaient à bord du convoi stoppé par la MINUSCA vendredi soir. Des morts ont, selon l'ONU, étaient enregistrés du côté des rebelles dans les échanges des tirs avec les forces de sécurité centrafricaines provoquées quand les convois quittaient Bangui par force. La MINUSCA soutient avoir toutefois réussi à garder une dizaine de rebelles. Les Séléka avaient pris le pouvoir en 2013, renversant l'ex-président François Bozizé et aggravant les conflits interethniques qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, d'après les Nations Unies.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Conflit au Soudan du Sud, Riek Machar, l'ex-rebelle et ancien vice-président sud-soudanais, a quitté le pays à la suite des violences de début juillet dans la capitale Djouba et a trouvé refuge dans un pays sûr de la région. L'information a été donnée par Mabior Garang, porte-parole du SPLM-IO, le parti de M. Machar, dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Les détails avec Idrissa Sedoudia.
Sans donner plus de précisions sur l'endroit exact où est réfugié M. Machar, le porte-parole a en outre assuré que l'intéressé restait extrêmement discret depuis les combats de juillet s'exprimera à l'occasion d'une conférence de presse dans les prochaines 24 heures. M. Machar avait fui Djouba lors de combats à l'arme lourde dans la capitale du 8 au 11 juillet entre forces loyales au président Salva Kiir et les ex-rebelles répondant à ses ordres. Ces hommes étaient sortis vaincus de ces combats et il avait été remplacé au poste de vice-président par son ancien allié Taban Dengai. Les camps Kiir et Machar se rejettent la responsabilité des combats de juillet qui ont mis en péril le fragile accord de paix du mois d'août 2015 destiné à mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013 et ayant fait des dizaines de milliers de morts et 2,5 millions de déplacés.
Toujours concernant le Soudan du Sud, l'ONU a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises contre les civils, y compris des travailleurs humanitaires, par des soldats sud-soudanais à Djouba en juillet et sur l'incapacité des casques bleus à les en empêcher. On fait le point avec John Lyndon.
Dans un communiqué, le secrétaire général Ban Ki-moon s'est dit préoccupé par des allégations selon lesquelles la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, n'a pas réagi de manière appropriée pour prévenir ces graves actes de violence sexuelle commis à Djouba. Une enquête spéciale indépendante sera chargée de déterminer les circonstances de ces incidents et d'évaluer la réaction de la mission, indique-t-il, se déclarant de nouveau scandalisé par les actes de violence commis par les forces gouvernementales et des forces de l'opposition à Djouba du 8 au 11 juillet. Ban Ki-moon exhorte également le gouvernement sud-soudanais à enquêter et à poursuivre en justice les responsables. L'ONU a documenté au moins 200 cas de viol de sud-soudanaises, dont la capitale, pour le seul mois de juillet, perpétrés par des hommes en uniforme, notamment issus des troupes du président Salva Kiir. 4000 soldats onusiens supplémentaires doivent être déployés à Djouba pour assurer la sécurité. Près de 200 000 civils déplacés par la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 2 ans et demi ont trouvé refuge dans 6 camps onusiens dans tout le pays.
On termine avec la présidentielle américaine 2016. Les importants changements à la direction de campagne du candidat républicain Donald Trump continuent de dominer l'actualité. Mais le débat se poursuit également sur le terrain fiscal. Timothée Donangmaï.
Pour rappel, Donald Trump a désigné comme directeur général de sa campagne Stephen Bannon, directeur du site d'information conservateur Breitbart, en remplacement de Paul Manafort. Ce dernier conserve son poste de président de l'organisation de la campagne et Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, a été promue directrice de campagne. Malgré ces changements, Trump reste toujours le même homme qui réduira les impôts des super-riches, a lancé son adversaire démocrate Hillary Clinton lors d'un meeting électoral mercredi à Cleveland dans l'État de l'Ohio.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.